Place Publique. C'est l'heure du bilan. Ce soir, Place Publique va avoir un œil dans le rétroviseur. Quels ont été les faits marquants de 2017 dans l'arc jurassien ? Nous allons en parler avec les chefs de région des radios RJB, RTN et RFJ. On verra également avec eux à quelle sauce l'actu sera mangée en 2018. La Suisse est neutre, Internet ne l'est plus. La semaine passée, l'administration américaine a décidé d'abroger la neutralité du net, un des principes fondateurs d'Internet. Qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi cette décision touche les internautes suisses ? Nous le verrons avec Stéphane Kor, expert en stratégie numérique, et Guillaume Saouli, le coprésident du parti Pirate Suite Suisse. Mais pour commencer, je vous propose une monnaie virtuelle pour un investissement bien réel. Nous allons échanger sur le Bitcoin. Bienvenue dans Place Publique.
Jusqu'à 19h, Place Publique. Cédric Adrover.
On n'en finit plus de parler du Bitcoin. Cette crypto-monnaie qui va fêter ses 10 ans en 2018 a vu son cours exploser. Elle est passée d'environ 1 000 $ en début d'année à 18 000 $ fin 2017. Si vous aviez investi 50 francs au début des années 2013, vous auriez aujourd'hui pas loin de 35 000 francs. Des chiffres qui font rêver aussi dans la région. Yann Ruffer, gestionnaire de fortune à la Banque cantonale du Jura, le confirme.
On a eu quelques cas, je dirais entre 3 et 5 clients qui sont déjà venus acheter des bitcoins. Pas des vrais bitcoins, mais surtout des certificats qui existent notamment aux États-Unis. C'est très récent, ça date d'une ou deux semaines maximum, mais on voit que le phénomène prend de l'ampleur. On a de plus en plus de clients qui nous posent la question lors d'entretiens, est-ce que ça vaut la peine d'en acheter ou pas, et puis qui posent énormément de questions sur ce qu'est vraiment un bitcoin.
Qu'est-ce que vous leur répondez ? C'est un investissement qui vaut la peine ?
Alors, c'est très difficile de répondre à cette question parce que finalement, le Bitcoin, il repose sur pas grand-chose. Je dirais le seul avantage qui existe avec le Bitcoin, c'est qu'on sait qu'il est limité. C'est-à-dire que cet effet de rareté donne une valeur à cette crypto-monnaie. Et puis, je dirais, le concept est novateur. Puis, à mon avis, d'ici 15 ou 20 ans, tout le monde utilisera ce type de monnaie de près ou de loin. Mais à l'heure actuelle, la valeur, pour moi, ça veut absolument rien dire. C'est ça le problème.
Même son de cloche du côté de la Banque cantonale de Neuchâtel, il y a de plus en plus de demandes de renseignements, mais le produit n'est pas particulièrement encouragé. Yann Constantin est responsable de la salle des marchés à la BCN.
Nous ne conseillons pas d'investir dans le Bitcoin actuellement, nous n'avons d'ailleurs pas de produit spécifique pour y entrer à la BCN. Ce que nous faisons simplement, c'est d'expliquer aux clients le mode de fonctionnement du Bitcoin, notamment les risques qui y sont liés, principalement dus à la volatilité.
Un produit que vous ne recommandez donc pas forcément, pour quelles raisons ?
Disons, les incertitudes sont encore assez grandes au niveau du Bitcoin. On a nous-mêmes à la BCN une clientèle plutôt traditionnelle. Les marchés manquent encore, à notre avis, de recul par rapport à ce type d'investissement.
Alors, est-ce que le Bitcoin est l'eldorado des placements ou au contraire un piège trop alléchant pour être honnête ? Pour tenter d'y voir plus clair, nous avons appelé Marc Burki, CEO de Swissquote, un groupe bancaire actif dans le domaine des services financiers et du négoce en ligne. Il propose depuis peu d'ailleurs des Bitcoins à leurs clients. On lui a d'abord demandé de nous expliquer le plus simplement possible ce qu'est un Bitcoin.
Le plus simplement possible, on peut dire que le Bitcoin est une monnaie qui permet de faire des transactions. On peut acheter et vendre des choses avec des Bitcoins. Mais au contrario d'une monnaie plus classique qui est émise par des banques centrales, celle-ci, en fait, a un autre mode de fonctionnement. La chose la plus extraordinaire avec le Bitcoin, c'est la manière, en fait, dont les Bitcoins sont émis. Beaucoup de gens ont certainement entendu parler qu'il y a un nombre maximum de bitcoins en circulation qui a été fixé à 21 millions. Et en fait, les bitcoins sont créés chaque fois que des transactions sont validées. Ça explique peut-être aussi un petit peu tout d'un coup la confiance ou l'extrême spéculation qu'il y a sur le bitcoin, parce qu'il n'y a justement pas la possibilité, comme sur les monnaies classiques, de faire tourner ce qu'on appelle la planche à billets, et puis en quelque sorte de dévaluer la valeur ou la référence de cette monnaie.
Vous, en tant que professionnel, ça vous a surpris cette explosion du bitcoin ?
Je crois que ça a surpris vraiment à peu près tout le monde. C'est une performance qui est juste extraordinaire. Il y a une évolution spéculative qui est juste phénoménale. Le monde entier, maintenant, spécule sur le Bitcoin.
Aujourd'hui, c'est un placement que vous recommandez.
Je ne parlais pas de placement, en fait. C'est aujourd'hui, si on achète du Bitcoin, c'est vraiment un but spéculatif.
On ne met pas ses économies.
Non, alors il faut mettre ce que vous arrivez à perdre, en quelque sorte. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que cette monnaie, elle est caractérisée par une performance extraordinaire, mais elle est aussi caractérisée par une volatilité incroyable. Donc, vous pouvez très bien avoir tout d'un coup avant la fin d'année, en fait, à une perte de 30% de la valeur du Bitcoin. Ça ne surprendrait personne. Ce n'est pas un placement de père de famille, je dirais. Hein. C'est vraiment quelque chose d'abord qu'il faut surveiller. Il faut pouvoir être réactif aussi. Quand vous voyez que ça commence à chuter, il faut avoir la possibilité de négocier ce Bitcoin d'une manière très, très rapide.
Il y a une forte probabilité qu'aujourd'hui, le Bitcoin, ce soit une bulle.
Tant qu'il y aura suffisamment de gens qui veulent acheter des Bitcoins, le prix va continuer à monter. Mais non, c'est une espèce de consensus, en fait. Si tout d'un coup, il y a un consensus plus important que vraiment maintenant la valeur du Bitcoin est exagérée, là vous allez voir des chutes parce que beaucoup de gens vont commencer à les vendre pour encaisser finalement la plus-value qu'ils ont fait.
Un autre aspect, c'est que un produit qui était à la base presque un peu alternatif commence de se faire approprier par le système financier. On peut désormais maintenant parier sur le Bitcoin à la baisse notamment. Est-ce que ça, le fait que ça s'institutionnalise, ça change la donne?
Oui, alors surtout la bourse de Chicago qui a émis des produits classiques, donc des futurs sur le Bitcoin. Donc tout d'un coup, en fait, le Bitcoin réintègre presque un petit peu le système financier mondial. Ça lui donne aussi un petit peu de stabilité, je pense.
Une dernière question, Bitcoin ou autre, hein, d'ailleurs, hein, c'est la plus connue, mais il y a d'autres monnaies virtuelles. Est-ce que, à votre avis, c'est l'avenir des transactions?
Il y a une chose un petit peu paradoxale, c'est que le Bitcoin, à l'origine, a été inventé pour précisément faire des transactions, c'est-à-dire pour acheter quelque chose sur Internet. Et aujourd'hui, c'est un petit peu difficile parce que, précisément, il y a cette extrême volatilité. Alors, c'est très difficile de fixer un prix en Bitcoin avec quelque chose qui s'apprécie d'un facteur 15 depuis le début de l'année. Donc, il y a au-dessus de Lausanne un pub, en fait, qui est bien connu de tous les geeks de Suisse, en fait, où vous pouvez acheter votre bière en Bitcoin. C'est une difficulté extrême parce que entre le moment où vous l'achetez et puis le moment où vous le payez, évidemment, votre bière peut avoir augmenté de 50%. Donc, cet aspect-là, les choses deviennent difficiles. Et il faudrait d'abord que le Bitcoin se stabilise pour que ça redevienne finalement une monnaie classique.
À titre personnel, vous en avez?
Alors j'en ai acheté évidemment, c'est pas tout à fait au début, je le regrette beaucoup. Parce qu'il y a ce fantasme qui dit que si on avait acheté pour 100$ de Bitcoin quelque part en 2009, on serait multimillionnaire aujourd'hui. Alors certains l'ont fait, hein, c'est la revanche du geek sur le financier, si j'ose dire. J'en ai acheté un ou deux parce que nous on l'offre maintenant à travers notre banque, donc évidemment j'en ai profité pour en acheter un.
Vous n'avez pas bu en bière au café?
pas encore.
Marc Burki, on rappelle que vous êtes le CEO de Swissquote. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bonne soirée.
Mais je vous en prie, bonne soirée.
Et dans un instant, on reste dans un monde virtuel. On va parler de la décision américaine d'abolir la neutralité d'Internet. C'est après un peu de musique et les infos de Yann Hasler. Place publique se poursuit. Jeudi 14 décembre, le régulateur américain des communications s'est prononcé pour la fin du principe de neutralité du web. Un débat qui a été vif et c'est au final un homme nommé par Donald Trump qui a fait pencher la décision. Alors il y avait d'un côté ceux qui pensent que ça va favoriser la concurrence et l'innovation, de l'autre ceux qui craignent l'émergence d'un Internet à deux vitesses. Et en Suisse, quel impact aura cette décision? Comment le pays protège cette neutralité du web? Pour démêler tout ça, nous recevons tout d'abord Stéphane Corr, expert en stratégie numérique. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Une première question basique pour bien comprendre les enjeux, Stéphane Corr, c'est quoi la neutralité du web?
Alors la neutralité du web, on pourrait essayer de la résumer comme le fait que finalement on peut accéder à différents types de services, différents types de contenus, d'une manière égalitaire, quel que soit finalement le montant qu'on va payer, et qu'on va pas être discriminé en fonction d'un type de contenu ou d'un prix donné. Je sais pas, vous avez une autoroute à trois bandes, et puis c'est comme si la neutralité du net, c'est qu'on va pas privilégier un type de trafic par rapport à un autre, tandis que l'idée de casser cette neutralité, c'est de dire que, par exemple, on va ralentir les voitures pour faire circuler les camions plus vite parce qu'ils ont payé une taxe spéciale.
Si on prend un exemple, on a actuellement des auditeurs qui nous écoutent sur Internet. Un opérateur pourrait décider, moyennant finance, de ralentir le flux d'une radio pour favoriser une autre radio, c'est ça?
Alors, ça serait un peu difficile d'envisager un exemple tel que celui-là dans la réalité. Mais on pourrait dire que, par exemple, oui, de la vidéo, peut-être, ça serait plus représentatif pour être ralenti d'un service par rapport à un autre. Ou bien on est abonné à un service donné de vidéo en streaming, donc en diffusion directe, et puis ce service-là a ralenti parce que finalement, il n'y a pas un accord entre différents opérateurs pour acheminer au mieux le service jusqu'au client final.
Les partisans de l'abolition de la neutralité du web aux États-Unis parlent d'un bon moyen pour générer de nouveaux revenus, voire même de favoriser l'innovation. C'est crédible, à votre avis?
Peu crédible, parce que de toute façon, ils sont obligés d'innover quoi qu'il arrive. Et puis, c'est peu crédible parce qu'on voit bien que les modèles économiques, surtout aux États-Unis, ne sont pas que producteurs d'innovation. Ils sont restrictifs par rapport à ceux qui ont moins de moyens. On peut voir les problèmes dans l'assurance santé ou d'autres domaines. Finalement, s'il y a un moyen de faire du profit au détriment d'une certaine quantité d'individus pour privilégier une autre qui a les moyens de payer, ce modèle-là est plutôt dominant.
Bon, au final, c'est une décision américaine qui concerne le territoire américain. Est-ce que ça aura un impact en Suisse ?
Alors, ça peut avoir un impact. Alors déjà, premièrement, la décision, elle est pas. Il y a la FTC qui est intervenue là-dessus, mais il y a déjà une levée de bouclier aux États-Unis, il faut le dire. Il y a un certain nombre de législateurs qui essayent finalement de créer une loi au niveau fédéral pour empêcher la discrimination du trafic. Donc on a perdu une bataille, mais la guerre est pas encore terminée. Maintenant, en Suisse, ça peut quand même amener à des problématiques, parce qu'il y a beaucoup de services qui passent par les États-Unis. Donc on a, je sais pas, Netflix par exemple, pour pas le citer, ou bien on a peut-être des hébergements qui sont vendus en Suisse, donc des hébergements de sites internet ou de services qui sont basés sur internet, ça peut être du e-commerce, et puis ces hébergements vont peut-être passer par des prestataires aux États-Unis et ils pourraient se voir affectés. Par exemple, on a des gros réseaux, comme un réseau qui s'appelle Akamai, auquel des services publics sont abonnés pour diffuser des services de vidéo en replay, etc., ou tout ce qui est accès à des contenus de divertissement, ben ces services-là pourraient potentiellement être affectés. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas encore une idée de la manière dont tout ceci va pouvoir se représenter dans la réalité. Hein. Pour l'instant, on a des hypothèses, et puis on va voir. Puis il y a des accords aussi entre les opérateurs de télécom, ce qu'on appelle un peu... J'ai que le terme anglais, mais du peering, c'est-à-dire qu'il y a des accords pour louer de la bande passante entre eux, donc de la connectivité Internet à différents moments du jour. Et finalement, ces accords-là, on ne sait pas comment ils vont se représenter avec cette nouvelle donne qui est cet abandon de la neutralité d'Internet. Donc il y a beaucoup de questions en suspens et on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé.
Et d'un point de vue législatif, en Suisse, la neutralité du web est aussi un enjeu. Si on en croit le Parti Pirate, nous avons appelé son coprésident, Guillaume Saoulier. Écoutez.
En Suisse, on a deux composantes qui régissent l'accès à Internet, hein. D'un côté, on a la loi sur les télécommunications qui exige un service universel de la part des opérateurs concessionnés. Donc là, il y a déjà un fondement sur lequel on peut avoir une influence puisque c'est une loi. Par contre, ce qui est de la neutralité du net, aujourd'hui, les autorités politiques fédérales, elles jouent un petit peu à Ponce-Pilate, hein, et s'en remettent au bon vouloir des entreprises privées. Ça peut avoir des grosses conséquences sans même que les personnes s'en rendent compte. Je veux dire, ça peut être ce qui est arrivé avec les fake news, où in fine, on a une avalanche d'informations complètement faussées qui influencent la prise d'opinion de chaque citoyen. Et donc, on peut avoir des conséquences qui sont assez importantes, ne serait-ce que lors de votations ou de choix économiques ou autres, qui sont des choses qui, au quotidien, peuvent être quand même impactantes.
Stéphane Kor, sans neutralité du web, les opérateurs pourraient, à ce point-là, manipuler l'opinion ?
Je suis un tout petit peu dubitatif sur la manipulation de l'opinion, c'est-à-dire que généralement, ils sont plutôt transporteurs de contenu, ils en produisent de plus en plus, c'est vrai, mais je pense qu'en Suisse, on a quand même une manière de produire des contenus et de les mettre à disposition, une responsabilité par rapport à ça. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même quelque chose qui est important par rapport à cette problématique. C'est que de plus en plus de gouvernements incitent ou imposent à leurs citoyens d'utiliser Internet d'une manière ou d'une autre. Donc il y a quelque part un devoir de donner un accès égalitaire aux citoyens parce que finalement, c'est les gouvernements qui les amènent sur la toile. Donc c'est pas un choix démocratique ou un choix ouvert par rapport à des prestations qui revêtent un caractère économique. C'est finalement, le citoyen se doit d'utiliser Internet et si on veut qu'il puisse l'utiliser de la manière la plus égalitaire possible, il faut mettre en place un cadre qui impose cet accès sans restriction.
Un cadre qui serait important, mais visiblement pas beaucoup de monde pour comprendre ces enjeux sous la coupole. En tout cas, si on en croit Guillaume Saoulier, qui n'est pas tendre avec les élus fédéraux.
On a un groupe politique au Parlement fédéral qui est, au niveau de l'illettrisme numérique, je pense, quelque chose qui doit être un record en termes d'incompréhension des enjeux et de volonté d'éviter de mettre les pieds dans le plat pour être confronté à ce qu'ils ne connaissent pas.
Un monde politique en Suisse qui ne comprend pas les enjeux. Vous partagez ce constat, Stéphane Corr?
Ouais, je pense qu'il y a malheureusement rien de nouveau, que comme dans le domaine de la cybersécurité, finalement des technologies de l'information et de la communication, on est en retard. On voit bien, il n'y a pas encore de stratégie réelle pour intégrer dans les écoles cette connaissance. On est plutôt sur un peu des pansements pour éviter les plus gros risques, la sensibilisation de la prévention, mais pas encore dans une intégration de la société dématérialisée dans laquelle on est, donc de ce monde numérique, au niveau de l'apprentissage et de l'accès à la connaissance. Ce qu'on appelle la littératie numérique. Il y a des programmes européens, mais la Suisse n'a pas vraiment un programme au niveau national. Il y a des cantons qui ont des initiatives, mais voilà, le fédéralisme va un peu à l'encontre, finalement, de cette mise à niveau qui est nécessaire.
Et si, à l'échelle individuelle, on souhaite s'engager pour la neutralité du web, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, rejoindre potentiellement des initiatives, mais finalement, la neutralité du web, c'est aussi représentatif, quelque part, d'une relation avec la redevance. Il y a un accès à Internet qu'on paye tous. Il y a bien sûr des gens qui vont consommer d'une certaine manière, d'autres qui vont consommer plus. Peut-être que certains pourraient payer plus pour accéder plus vite à certaines choses, mais on décide que finalement le modèle ne doit pas fonctionner comme ça parce qu'on est dans une société qui veut intégrer un maximum de gens, de personnes. Et cette société numérique est une représentation de notre société dans le monde physique. Donc finalement, on doit des fois être dans cette idée de participation, on n'est pas dans une consommation à 100% peut-être des ressources auxquelles on accède, et tout le monde ne les consomme pas de la même manière, mais ça fait partie du modèle dans lequel on est et qu'on retrouve à différents niveaux de la société. Donc la neutralité du net, la soutenir, c'est s'intéresser au fonctionnement d'Internet, c'est peut-être soutenir des initiatives, faut regarder ce que le parti pirate fait, faut regarder ce que d'autres font. En tout cas, le parti pirate part d'une bonne intention. Moi, je suis pas membre, donc je peux en parler, je pense, avec une certaine objectivité, mais il part d'une bonne intention pour essayer d'accompagner le citoyen par rapport à ses enjeux. Et puis, quand on est dans d'autres partis politiques, c'est amener ces questions à portée du politique pour qu'il soit obligé de les prendre en compte et finalement d'approfondir ses connaissances par rapport à tout ça.
Stéphane Corr, on rappelle que vous êtes expert en stratégie numérique. Merci beaucoup d'être venu apporter votre éclairage ce soir. Très bonne soirée.
Merci à vous aussi, bonne soirée.
Et pour terminer cette émission, nous allons revenir sur les événements importants de 2017 dans les cantons de Neuchâtel, du Jura et dans le Jura bernois, ainsi que les gros dossiers 2018. Rendez-vous dans 3 petites minutes.
Place publique.
2017, une année bien dense en termes d'actualité dans les régions. Vous le savez peut-être, Place publique est diffusée sur les radios RJB, RTN et RFJ. Trois radios pour traiter de l'actualité régionale de trois cantons. Il s'agit de notre mandat de service public. Et pour ce faire, il y a trois rédactions séparées, chacune d'entre elles dirigée par ce qu'on appelle dans notre jargon un chef de région. Ils sont les trois parmi nous ce soir. Pour RJB, le Jura bernois est bien Alexandre Steiner. Bonsoir.
Bonsoir.
Pour RFJ, le canton du Jura, Raphaël Chalvera. Bonsoir.
Bonsoir.
Et pour RTN, le canton de Neuchâtel, Adrien Juvet, bonsoir.
Bonsoir.
On va commencer chez vous, Adrien. Quelles ont été les actualités qui ont marqué votre canton en 2017?
Eh bien, d'abord, le scrutin du 12 février, les Neuchâtelois préconisent l'initiative pour deux hôpitaux de soins aigus. Ils préfèrent ce texte au projet du gouvernement qui promettait deux centres remplissant chacun des fonctions distinctes avec des soins aigus à Neuchâtel, la réadaptation dans le haut à la Chaux-de-Fonds. Aujourd'hui, le scrutin, faut le dire, a laissé des traces assez vives. Le gouvernement tente tant bien que mal d'aller de l'avant. Le gouvernement a décidé la création dans un premier temps, dès le printemps prochain, d'une société anonyme d'utilité publique qui sera en charge de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Ça, c'est le premier grand dossier.
Le deuxième.
Deuxième grand dossier. Eh bien, je vous propose de revenir sur le nom des citoyens à la construction d'un hôtel judiciaire unique à la Chaux-de-Fonds, un nom qui avoisinait les 60%. Le projet a été considéré inutile, trop onéreux. C'était un investissement de près de 50 millions de francs. Alors, comme l'autre consolation pour le gouvernement, on notera que le même jour, le peuple a dit oui à la réforme des institutions qui préconise la fin des districts, notamment, et un oui aussi au report de l'harmonisation de l'imposition des frontaliers. Et puis, dernier gros dossier traité cette année dans le canton de Neuchâtel, le jugement de Boulat Chagaïev. Fin septembre, le tribunal cantonal avait reconnu l'ex-propriétaire de Neuchâtel Examax coupable de gestion fautive et déloyale, détournement de l'impôt à la source, tentative d'escroquerie et faux dans les titres des actes qui avaient mené le club à la faillite. C'était en 2012. Il a été condamné à 3 ans de prison dans la moitié ferme. Boulat Chagaïev a aujourd'hui fait recours au tribunal tribunal fédéral contre sa condamnation.
Même question du côté de RJB, Alexandre Steiner. Si vous deviez sortir les éléments marquants de cette année 2017 dans le Jura bernois, ce serait quoi ?
Alors, bah, évidemment, le gros point marquant était la fin, si on veut, du processus qui visait à régler la question jurassienne. Une fin de processus qui s'est notamment passée par trois votes communalistes, donc des communes qui pouvaient dire à titre indépendant si elles souhaitaient devenir jurassiennes ou rester bernoises. Donc, la première à s'être prononcée était Moutier, le 18 juin, qui a dit oui au canton du Jura à 51,7%. On y reviendra dans les minutes qui viennent. Et puis ensuite, le 17 septembre, c'était Belpraon et Sorvilliers qui ont dû se prononcer, qui ont toutes les deux dit non à 51,4% à Belpraon et à 66,1% à Sorvilliers. Donc un dossier qui a beaucoup occupé, qui devait régler la question jurassienne et qui l'a en partie fait. Simplement, il y a encore des recours qui sont pendants du côté de la préfecture, donc tout le monde attend la décision concernant ces recours avec impatience, parce que tant qu'ils ne sont pas tranchés, eh bien difficile de dire que la question jurassienne est terminée, comme on le verra encore par la suite. D'autres dossiers importants pour la région, autre que politique, c'est l'ouverture d'autoroutes dans le Jura bernois et dans la région de Bienne. Alors, dans le Jura bernois, le dernier tronçon de la Transjurane, la 16, entre Sorvilliers et Cours, entre Lovresse et Cours, qui a été inauguré donc au mois d'avril et qui a mis fin à un chantier de 30 ans sur la Transjurane et qui permet désormais de relier Bienne à Boncourt sans interruption, donc qui a eu de grosses conséquences aussi pour le trafic dans la région et pour l'économie de certains villages qui ont vu aussi les dépensiers de passage, si on peut les appeler comme ça, diminuer. Et puis aussi du côté de Bienne, l'ouverture de l'axe est de l'A5 qui permet désormais pour les personnes qui descendent depuis le Jura bernois d'aller directement à Berne sans sortir de l'autoroute. Donc aussi un gros changement à ce niveau-là qui permet aussi de désengorger le centre-ville de Bienne. Alors il n'y a pas encore de mesures officielles à ce niveau-là, mais en tout cas pour circuler régulièrement dans ce coin-là, on constate quand même que le trafic est un peu moins chargé, donc deux ouvertures qui ont pas mal changé la donne dans le domaine des transports.
Si vous deviez sortir un souvenir dans cette année 2017, ce serait lequel ?
Alors, un souvenir, évidemment, pour moi, ce sera la journée du 18 juin, du vote de Moutier. Alors, je n'ai pas forcément envie ici de parler du résultat qui est ce qu'il est, mais surtout une journée impressionnante au niveau du journalisme. Par l'infrastructure qui a été mise en place déjà par nos deux radios, donc RFJ et RJB, qui ont travaillé en commun sur cette journée, mais avec des émissions séparées pour ménager les sensibilités des auditeurs. Et puis aussi pour au niveau de l'infrastructure, donc on était plus d'une vingtaine de journalistes sur le terrain, beaucoup d'émotions dans cette journée, beaucoup de larmes. Et puis moi, c'est un peu ce que j'ai retenu de cette journée, c'était de voir que tous ces politiciens aussi qu'on voit pendant ces campagnes, qui s'engagent, qui jouent un rôle aussi, et bien ce jour-là, on avait l'impression que tout le monde était redevenu un peu un enfant qui passait une journée vraiment particulière et qui n'avait plus vraiment contrôle sur ce qui se passait à l'intérieur de lui. Et pour moi, ça a été un moment très fort.
Avec un moment phare, celui des résultats qui ont été annoncés en direct sur RJB et RFJ.
À la question, voulez-vous que la commune de Moutier rejoigne la République et canton du Jura ? Il a été répondu majoritairement par 51,72%. Oui. Soit 2067 oui et 1930 non.
Dans le Jura, Raphaël Chalvera, qu'est-ce que vous retiendrez de cette année ? Également Moutier, on imagine.
Bah oui, effectivement, pour le Jura, c'est évidemment un scrutin important. C'est pratiquement 8000 habitants de plus, soit 10% de population supplémentaire pour le canton de Jura. Donc évidemment, ce n'est pas un scrutin qui a marqué l'année 2017, mais sans doute ces 50 dernières années pour arriver au terme de cette fameuse question jurassienne. Je ne vais pas revenir sur les propos d'Alexandre, je partage l'analyse en termes d'impact médiatique, émotionnel et politique, évidemment.
Quoi d'autre dans le Jura, du coup, cette année ?
Dans le Jura, on est passé aux élections communales cet automne, qui ont aussi marqué les esprits, qui ont été très suivies, notamment du côté de Porrentruy, où il y avait eu pas mal de grabuges lors de la dernière élection, il y a 5 ans. Et puis, on a vu la mairie de Porrentruy basculer dans le camp du PLR. Porrentruy, qui est un fief PDC avec l'élection de Gabriel Voirol. C'est un des faits marquants également de cette année 2017 dans le Jura.
Alors, rapidement, tous les trois, quels seront les dossiers qui vont vous occuper l'année prochaine ? prochaine. À quoi ressemblera 2018 d'abord dans le Jura, Raphaël?
Eh bien, dans le Jura, on arrive un petit peu à la fin d'un cycle. Si on regarde sur le plan politique, l'A16 est achevée, le campus stratégie à Delémont a été inauguré, Moutier a voté, c'est bientôt la fin de la question jurassienne. Donc, il va falloir amener d'autres projets, mais évidemment, au risque de se répéter, c'est quand même Moutier désormais qui va occuper pas mal l'espace médiatique, puisqu'on l'a dit, il y a des recours qui sont pendants. Et puis, les autorités jurassiennes souhaitent que ça aille vite. Aujourd'hui même, ce matin même, le Parlement jurassien a adopté une résolution demandant que les gouvernements bernois et jurassiens mettent tout en œuvre sous le regard de la Confédération pour arriver à un transfert rapide dans la date unilatèrement choisie par le Jura du 1er janvier 2021. Donc ce sera vraiment le gros dossier à suivre en 2018 certes, mais aussi en 19 et 20.
Et un gros dossier que devra aussi suivre la rédaction d'RJB, Alexandre Steiner, les recours, mais il y aura aussi des élections dans le Jura bernois.
Oui, alors dans tout le canton de Berne, hein, les élections cantonales 2018 au mois de mars. Donc déjà au niveau de l'exécutif, eh bien des changements vu que 3 des conseillers d'État ne se représentent pas. Donc 3 sur 7, ça va amener pas mal de changements à l'exécutif. Et puis évidemment la question de l'élu du Jura bernois, puisqu'un siège est réservé pour le Jura bernois. Et là donc Pierre-Alain Schneck, l'UDC, se représente face à 2 candidats, les 2 socialistes. Donc le PSA, Parti Socialiste Autonome, et puis le PSJB. Donc là il risque quand même avoir des divisions, des captages de voix entre les deux, donc à voir si cette stratégie peut payer, ça semble peu probable du point de vue des observateurs, en tout cas pour l'instant. Et puis aussi par rapport à Moutier, alors sans parler des recours, il y aura aussi beaucoup de travail pour le Jura bernois, hein, le départ de Moutier dans le cas du Jura bernois, c'est 10% de population en moins, et toute une administration décentralisée qui se situe actuellement à Moutier, qui doit être relocalisée ailleurs, donc là il y aura aussi beaucoup de travail pour préparer ce dossier et éviter que les communes qui restent dans le Jura bernois se déchirent pour récupérer ce qui devra partir de Moutier.
Enfin, 2018, dans le canton de Neuchâtel, Adrien Juvet, ça va commencer par un problème de budget ?
Ouais, depuis la nuit dernière, l'année 2018 est assez difficile pour le canton qui n'a pas de budget. C'est une première qui effraie. La nuit dernière, le Grand Conseil n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un budget. Du coup, le gouvernement ne peut dès aujourd'hui que dépenser ce qui est indispensable au fonctionnement des institutions. Cet échec des autorités cantonales est révélateur de certaines incapacités neuchâteloises. Aux yeux de Niels Sogel, le professeur de finances publiques à l'Institut de hautes études en administration publique.
C'est effectivement révélateur d'une incapacité à se mettre d'accord sur un projet de société pour un canton entre des forces politiques qui ont des vues divergentes sur la manière avec laquelle il faut vivre en société, quelles doivent être les dépenses de l'État et comment doit se répartir le fardeau du financement de ces dépenses.
Et puis, dans le canton de Neuchâtel, autre enjeu pour 2018, c'est la réalisation d'une ligne ferroviaire directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. L'année sera décisive pour ce projet. L'Office fédéral des transports préfère pour l'instant une réflexion de la ligne historique actuelle. Alors le gouvernement neuchâtelois, dans ce dossier, eh bien, devra convaincre dès le début de l'année. Et puis, troisième enjeu à venir, cette année 2018 sera rouge et noir, car Xamax est sur le bon chemin pour faire son retour en Super League, 6 ans après le désastre de la faillite. Les hommes de Michel de Castel sont en position de force dans le championnat de Challenge League, où ils occupent aujourd'hui la première place du classement. Alors certes, il reste encore 18 matchs à jouer, mais Xamax compte 10 points d'avance et plus sur ses poursuivants, Chafouz et Servette. Les rouges et noirs ont tout en main pour parvenir à décrocher la promotion. Ils tablent sur une moyenne impressionnante de 2 points et quelques par match, et ceci depuis 2 ans. Donc si tout se passe bien, je vous propose qu'on se retrouve à la Maladière d'ici le lundi de Pentecôte, date du dernier match de championnat.
Le rendez-vous est pris, c'est presque un engagement, Adrien. Une belle année donc qui s'annonce sur les antennes de RJB, RTN et RFJ. Merci messieurs pour cet état des lieux. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Excellente soirée.
Je sais que vous vous joignez à moi pour souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à vous qui nous écoutez, parce que oui, c'est la dernière de Place Publique cette année. Mais on revient l'année prochaine, bien évidemment, chaque mercredi, et vous retrouverez à cette même place Gabriel Devecq. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Place Publique.